La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9.
Victoire avec un grand IVG. Hier, le Congrès réuni au château de Versailles a voté l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution de la Ve République. Simone Veil, ministre de la Santé, qui avait porté le projet de dépénalisation de l'avortement en 1974, peut sortir sur le parvis du Panthéon et pousser un cri de rage bouillonnant et heureux devant cette décision historique. La France devient ainsi le premier pays au monde à intégrer l'IVG dans sa Constitution. Victoire à demi-mot en revanche, car cette inscription a bien changé de tenure, de vocabulaire entre la première proposition de ELV et celle qui sera finalement inscrite dans la Constitution. Depuis l'arrêt Dobbs versus Jackson aux États-Unis en 2022, Aurore Berger du groupe Renaissance et Mathilde Panot du groupe LFI-NUP avaient toutes deux déposé une proposition de loi allant dans ce sens. Et du côté du Sénat, c'était Mélanie Vogel, donc de ELV, qu'en avait déposé une dans ces termes, je cite, « Nul ne peut porter atteinte au droit à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception. La loi garantit à toute personne qui en fait la demande l'accès libre et effectif à ses droits. » Rejetée par la Chambre haute, elle revient sur le devant de la scène lors de la niche parlementaire de LFI en juillet 2023, sous plus ou moins les mêmes termes que celle de la sénatrice. Mais à force d'amendements, elle est votée sous ces termes, je cite, « La loi garantit l'effectivité et l'égal accès au droit à l'interruption volontaire de grossesse ». Passée au Sénat, encore détricotée, sa version presque finale devient « La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse » avant de devenir, finalement, « La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ». C'est ce terme « garantie » qui pourrait changer la donne pour Laureline Fontaine, professeure de droit constitutionnel à la Sorbonne Nouvelle Paris 3, et Stéphanie Annette Vaucher, professeure de droit public à l'Université Paris-Nanterre. Elle explique dans une interview à France Bleu en date du 26 janvier 2024 que tout se jouerait sur le moment du vote de la constitutionnalisation de l'IVG, soit hier 4 mars 2023. Je cite, si une loi change les délais légaux pour une IVG, le Conseil constitutionnel pourrait la juger conforme, mais il pourrait aussi dire qu'elle n'est pas conforme en argumentant qu'à l'époque où la Constitution a été modifiée, le délai était de 14 semaines, fin de la citation. Tout se jouerait alors dans l'appréciation du Conseil constitutionnel au moment d'une mise en danger encore hypothétique en France, du droit à l'avortement. En se penchant aussi sur la dénomination de femme, moins englobante que les propositions faites par ELV et LFI, et pouvant d'une certaine manière mettre de côté toute autre personne pouvant tomber enceinte. Dès aujourd'hui d'ailleurs, Mathilde Panot et les députés LFI ont déposé une proposition de résolution européenne visant à garantir le droit à l'avortement dans la charte des droits fondamentaux de l'UE. L'inscription française de l'IVG dans la Constitution, bien que révolutionnaire dans une très grande mesure, prouve qu'une victoire remportée ne signifie pas forcément la fin du combat. Pour reprendre les termes de la députée LFI. Et aujourd'hui, en première partie d'émission, Anouk et Péa recevront Marie-Geoffrey Roustide, sociologue à l'ISREM, pour nous parler de la légalisation du cannabis en Allemagne. Ensuite, en deuxième partie d'émission, José-Louis recevra Xavier Lemaître, directeur du festival Banlieue Bleue, qui nous présentera sa 41e édition, en présence aussi de Camille Farama, assistante aux relations presse. Pour les chroniques, Clément nous présentera son reportage sur le salon Son et Lumière, et Akira nous parlera de la grosse info du moment, notre tête explose.
La matinale de 19h.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris 93.9 et c'est toujours la matinale. Pour ouvrir l'émission, comme je l'ai dit, Anouk et Péa reçoivent Marie-Geoffrey Roustide, sociologue à l'ISREM, pour nous parler de la légalisation du cannabis en Allemagne. Est-ce que vous êtes avec nous ?
On est là.
Bonsoir.
Bonsoir.
Marie-Geoffrey Roustide, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour.
Vous êtes chargée de recherche à l'INSERM, au Centre d'études des mouvements sociaux, et directrice du programme Sciences sociales, drogue et société à l'EHESS. Vous avez soutenu en 2010 votre thèse portant sur la réduction des risques chez les usagers de drogue. Et vous travaillez aujourd'hui sur les politiques de drogue dans une perspective internationale entre la France et les États-Unis et le Canada. Et vos recherches portent notamment sur les politiques de réduction des risques et sur la légalisation du cannabis. Et c'est sur ce dernier sujet, que nous vous recevons aujourd'hui. En effet, le 23 février dernier, le Parlement allemand a voté une loi de légalisation du cannabis récréatif qui doit entrer en vigueur le 1er avril prochain. Ce qui constituait une loi phare du gouvernement du chancelier Olaf Scholz. Ce vote remet ainsi sur le devant de la scène le débat autour de la légalisation du cannabis et son potentiel élargissement à d'autres pays européens. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer le contenu de cette loi qui vient d'être votée en Allemagne ? Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les Allemands et les Allemandes ?
Bah, tout d'abord, en fait, dans la plupart des pays du monde, l'usage de drogue, de manière générale, est prohibé, c'est-à-dire est interdit par la loi et peut donner soit lieu à des peines de prison, soit à des amendes, soit à des obligations de soins. Et donc, là, ce qui va se passer donc, avec la légalisation... Et le deuxième élément aussi, qui est très important, au-delà de la pénalisation de l'usage, c'est que... quand il y a une criminalisation de l'usage, ça fait fleurir également les marchés criminels, puisque l'approvisionnement en matière de drogue se fait sur un marché illicite. Mmh. Et donc, les policiers, d'ailleurs, enfin, il y a eu des articles récents qui l'ont mis en évidence, ne savent plus comment faire au quotidien pour arrêter les trafics. Mmh. Ça donne lieu à beaucoup de violence également. Et donc, les Allemands, en fait, ils ont fait le constat, comme les Canadiens, les Uruguayens et également plusieurs États des États-Unis, que, en fait, cette guerre à la drogue et ce qu'on appelle la prohibition de l'usage de drogue était inefficace, que ça ne faisait pas baisser l'usage. Et donc, ils ont décidé de légaliser le cannabis. Alors, légaliser le cannabis, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour les Allemands majeurs, âgés de plus de 18 ans, ils auront la possibilité d'accéder à du cannabis par la voie légale, dans le cadre de clubs de cannabis. Ils ne seront plus obligés de s'approvisionner sur un marché criminel. Ils auront le droit d'acheter d'être en possession de 25 grammes de cannabis. Mmh. Et de faire pousser également 3 pieds de cannabis. Mmh. Parce que l'autocultivation est également un élément important dans la question de l'approvisionnement du cannabis. Et donc, ça veut dire qu'ils auront accès à des marchés sécurisés. Mmh. Concernant leur consommation, et puis que cet usage ne sera plus, sera rendu possible. Mmh. Puisque effectivement, l'accès sera également possible. Donc, en fait, ça veut dire que c'est une manière, en tout cas, de limiter les effets négatifs de la prohibition.
D'accord, mais parce que là, vous parlez de légalisation, c'est des questions qui reviennent assez souvent dans le débat public, la question des drogues, la question de la légalisation, mais il y a beaucoup de vocabulaire. Et avant de rentrer dans tout ce détail-là, ce que je voulais vous demander, c'était, est-ce que vous pourriez rappeler un peu les différences de vocabulaire entre légalisation, décriminalisation, tolérance, dépénalisation, parce qu'il y a beaucoup de termes qui circulent et on ne sait pas toujours ce que ça recouvre.
Alors, c'est vrai vous avez raison de me poser cette question parce qu'on a tendance souvent à confondre plusieurs termes. Par exemple, si on reste en Europe, il y a un pays qui est souvent montré en contre-exemple par le gouvernement français, c'est les Pays-Bas. Et en fait, souvent, il est montré en contre-exemple parce qu'il y a beaucoup de violences liées au marché criminel de la drogue aux Pays-Bas. Et donc, souvent, on a tendance à penser qu'aux Pays-Bas, l'usage de drogue est décriminalisé et légalisé. Et en fait, il y a simplement une tolérance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de légalisation du cannabis aux Pays-Bas, il est simplement possible de consommer du cannabis dans des coffee shops, mais qui s'approvisionne sur le marché illégal. Donc en fait, c'est la raison pour laquelle ce système de tolérance, par exemple, qui est mis en place aux Pays-Bas, ne résout pas ni la question de la criminalité liée à l'usage de drogue, ni la question de la sécurisation en matière d'approvisionnement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en fait la tolérance vis-à-vis de l'usage de drogue. C'est une forme de tolérance et c'est ce qu'on voit aux Pays-Bas. Vous avez un pays qui est allé très loin, il y a une vingtaine d'années, qui est le Portugal, qui lui a choisi de décriminaliser l'usage de toutes les drogues, c'est-à-dire que l'usage de drogue n'est plus aux Pays-Bas considéré comme un délit. Et il y a la question des termes qui est importante, mais aussi il y a la question des drogues auxquelles cela s'applique. On parle beaucoup de légalisation du cannabis, mais ce qui est intéressant au Portugal, c'est-à-dire que par exemple, quand vous légalisez le cannabis, ça veut dire que vous ne faites rien pour les usagers d'héroïne ou les usagers de cocaïne, de crack. Eux, ils restent des criminels et en fait, ils sont punis par la loi, contrairement aux personnes qui vont aller s'approvisionner sur un marché légal de cannabis. Et donc, au Portugal, donc en 2002, ils ont choisi de décriminaliser l'usage de toutes les drogues parce que c'est un pays qui avait été très impacté par la crise du VIH. Alors, vous n'étiez pas né à l'époque, mais dans les années 80, il y a eu une épidémie de VIH qui a vraiment décimé les personnes qui consommaient de l'héroïne par voie injectable avec énormément de morts. Et donc, au Portugal, Portugal, il y a des familles qui ont été très impactées et ça a sensibilisé la population portugaise qui a dit la guerre à la drogue, ça suffit. Il faut maintenant avoir un traitement beaucoup plus humain de cette question-là et plus axé sur le médical plutôt que sur la pénalisation. Donc ils ont décriminalisé l'usage de toutes les drogues. Ça veut dire qu'au Portugal, quand vous êtes arrêté avec une certaine possession de produits qui n'est pas considérée comme une forme de trafic, dans ce cas-là, vous passez devant une forme de ce qu'on appelle une commission de dissuasion de la toxicomanie, où au lieu d'être confronté à un policier, comme en France, là, vous allez être confronté à un magistrat, à un assistant social, à un médecin, et ils feront ces professionnels de santé, du social et de la justice, feront une évaluation de la situation de la personne et pourront lui permettre, par exemple, d'accéder aux soins. Donc ça, c'est la décriminalisation de l'usage de drogue. Mais par contre, il n'y a pas de légalisation de l'accès aux produits. C'est-à-dire que malheureusement, au Portugal, même s'ils sont allés très loin en améliorant l'accès aux soins des personnes usagères de drogue qui avaient besoin de soins, ils ne sécurisent pas l'approvisionnement. C'est-à-dire que les produits qui circulent ne sont pas contrôlés et pas obligatoirement de bonne qualité. Et puis en fait, vous avez ce qu'on appelle la légalisation, qui s'applique pour le moment quasi exclusivement à la question du cannabis, même si il y a des pays comme le Canada qui commencent à parler aussi de la légalisation d'autres produits, comme la cocaïne par exemple, qui se diffuse beaucoup. Donc là, la légalisation, elle s'intéresse à la vente et au marché, et en fait, elle fait en sorte de rendre un produit accessible sur un marché légal, avec différentes formes, on pourra y revenir un peu plus tard, mais des formes plus ou moins concurrentielles ou encadrées par l'État. Donc voilà, au niveau du vocabulaire, il y a la question donc, de tolérance, décriminalisation de l'usage, légalisation là, qui touche plutôt à la question de l'approvisionnement, et également la question de à quelle drogue ça peut s'appliquer.
Et du coup, avec la définition de ces différents termes et ces différents modèles qui existent dans les pays européens, il y a aussi des pays qui ont une politique particulièrement répressive et prohibitive. Dans quelle mesure ce genre de politique est particulièrement inefficace selon vous ?
Alors, c'est pas selon moi, hein, c'est selon la littérature disponible, les articles scientifiques qui ont été produits sur la question, parce que moi, en tant que citoyenne, quand j'ai commencé à travailler sur ces questions-là, il y a une trentaine d'années, le point de vue que je pouvais avoir sur les drogues était très différent de celui que j'ai aujourd'hui, parce que en tant que scientifique, je m'appuie sur ce qu'on appelle les données probantes, c'est-à-dire des études auxquelles je contribue d'ailleurs en France, mais qui vont évaluer l'impact de certaines mesures. Et donc, si on s'appuie sur une vision uniquement moraliste des drogues, comme on le fait souvent, soit en population générale, soit souvent au niveau du pouvoir politique, on va considérer que les drogues, c'est dangereux, donc il faut les interdire. Sauf que l'alcool et le tabac, c'est très dangereux. C'est les premières causes de mortalité en France et on ne les interdit pas. Il faut quand même savoir que le tabac, c'est vraiment une des premières causes de mortalité. Et donc, il y a un encadrement, mais il n'y a pas d'interdiction. Donc, en fait, ça veut dire que tout n'est pas complet. Enfin, tous les produits, à partir du moment où ils sont dangereux, ne sont pas interdits. Et donc, en France, le cannabis a un statut de stupéfiant, comme l'héroïne, comme la cocaïne. Et donc, en fait, leur usage est interdit. Alors, ce qu'on sait, c'est que, en fait, des pays, par exemple, comme la France, pour lesquels l'usage de drogue est réprimé, donc on a un cadre très prohibitif sur la question des drogues, avec une loi qui n'a pas beaucoup évolué depuis 1970, donc depuis plus de 50 ans, on a un des niveaux, enfin malgré cette loi répressive, on a un des niveaux d'usage de cannabis, que ce soit chez les jeunes et chez les adultes, les plus élevés d'Europe. On est deuxième. Avant on était premier, maintenant on est deuxième. Donc ça veut dire que cette loi répressive, elle n'a pas permis d'avoir un niveau de consommation bas, parce que l'objectif de la répression dans l'esprit des pouvoirs publics, c'est de dire si on interdit, si on menace, les gens vont consommer moins. Et en fait, on voit que ce n'est pas le cas. Cette répression, elle ne marche pas pour faire baisser la consommation. L'autre élément qui fait que la prohibition et la répression sont dangereux, c'est que en fait, sont des éléphants. Des actions dangereuses pour les consommateurs, c'est qu'en fait, quand vous interdisez l'usage et que vous ne légalisez pas l'accès, et ben vous laissez les marchés criminels se développer. Donc, vous avez toute la violence liée au trafic, dont on entend souvent parler, alors qui est très importante en France, mais qui est encore plus importante dans des pays comme par exemple la Belgique ou les Pays-Bas, où là, les marchés criminels sont encore plus présents qu'en France. Donc, vous avez une criminalité importante en lien avec la prohibition. Et puis, vous avez une qualité de produit qui n'est pas contrôlée. Donc, moi, je donne souvent cet exemple, c'est-à-dire qu'en France, par exemple, l'usage d'alcool, il est réglementé, donc il est légalisé, en fait. Et quand vous allez, par exemple, boire un verre d'alcool dans un café en France, si vous voulez une bière, bah, vous commandez une bière et vous avez une bière. Bon. Et ben, avec un marché illégal, c'est comme si vous voulez commander un verre d'alcool, vous pensez que vous allez boire une bière, et puis en fait, on vous donne exactement la même quantité de whisky. Donc vous imaginez l'état dans lequel vous allez être. Et ben, avec le cannabis, dans un marché prohibitif, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que quand vous allez acheter du cannabis sur un marché illégal, vous ne savez pas quelle va être la teneur en THC. Et on sait que les dangers liés au cannabis, ils sont accentués quand il y a une forte teneur en THC. Et le dernier point, désolé, je suis un peu longue parce que c'est un sujet complexe, c'est qu'en fait, quand vous êtes dans un contexte prohibitif, c'est très compliqué de faire de la prévention. Parce que l'usage de drogue est interdit, c'est stigmatisé, et donc les jeunes qui consomment des drogues, ou les moins jeunes, ou qui consomment qui consomment du cannabis, ne vont pas oser en parler et vont moins facilement accéder aux soins.
D'accord, donc beaucoup d'idées reçues sur le cannabis et puis aussi beaucoup de tabous autour de ça. On va en parler dans une deuxième partie.
Oui, merci déjà pour ces premières réponses, Marie-Geoffrey Rusted. Petite pause musicale maintenant, si vous nous le permettez. On va se mettre Just a Little Bit de Etta James. Oh, I don't want much. I just want a little bit. Just want a little bit, oh yeah. Just a eeny weeny bit, and just a teeny weeny bit of your love. Turn your lights down low, and honey, slip me a kiss right now. Turn your lights down low, baby, turn it on down. Ooh, I just can't resist. C'était Just a Little Bit de Etta James.
La matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
Rebonjour, rebonsoir à la matinale de Radio Campus Paris, il est 19h19, faites un vœu. Avant l'intermède musical, Anouk et Péa recevaient Marie-Geoffrey Rusted pour nous parler de la légalisation du cannabis en Allemagne. Est-ce que vous êtes toujours avec nous?
On est toujours là.
Super.
Ben on discutait juste avant de toutes les idées reçues et puis surtout de l'inefficacité en fait de la politique du tout répressif vis-à-vis de la question des drogues et puis là spécifiquement avec l'actualité allemande de la question du cannabis. Mais au-delà de ça, même si on peut dire que la politique du tout répressif n'est pas forcément efficace, on ne peut pas nier les risques de la consommation de cannabis, d'alcool, entre autres, notamment sur la santé des jeunes adultes. Parce que même si là, les jeunes adultes, enfin en tout cas les mineurs, sont exclus du dispositif en Allemagne, il y a des études qui montrent que la consommation de cannabis avant 25 ans reste quand même préjudiciable pour le développement du cerveau. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ?
Oui. Avant de répondre à votre question, je voulais dire aussi que légaliser ou décriminaliser, ça ne veut pas dire ne pas encadrer du tout et laisser faire. Bien au contraire, en fait, par exemple, si l'Allemagne ou un pays comme le Québec ont choisi de légaliser le cannabis, c'est pour des raisons de santé publique et pour limiter les risques, parce qu'ils font le pari que encadrer la consommation et pouvoir contrôler la qualité des produits va permettre de diminuer les risques. Donc c'est vraiment une logique de santé publique qui les anime. Donc ça, c'est déjà une... voilà, aussi une autre idée reçue à déconstruire. Alors, en effet, une des raisons pour lesquelles ces pays ont légalisé, c'est aussi parce que ce sont des pays dans lesquels les niveaux de consommation de cannabis chez les jeunes étaient élevés. Et donc, ça, les études disponibles montrent. Hein, j'en ai fait également... j'ai participé moi-même à des enquêtes de ce type. On voit en fait que la consommation de cannabis chez des personnes qui sont particulièrement fragiles peut donner lieu, par exemple, à une augmentation d'un certain nombre de troubles psychiques, peut donner lieu à un désinvestissement dans le travail ou dans la scolarité, dans les études. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que, alors ça ne va pas être le cas de tout le monde, mais c'est la même chose pour l'alcool. Hein. La majorité des gens qui consomment de l'alcool n'ont pas de problème avec l'alcool, mais il y a des personnes qui ont des problèmes qui sont liés à leur consommation d'alcool. Et donc, en fait, pour le cannabis, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que plus vous consommez, plus vous vous exposez à des risques, et plus vous consommez tôt, plus vous vous exposez à des risques. Et ce qu'on voit, c'est que par exemple, les troubles cognitifs qui peuvent aussi être associés à une consommation de cannabis, ou les troubles liés à la déscolarisation, ils sont surtout observés quand la consommation elle est à un âge précoce, c'est-à-dire avant 16 ans. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les médecins, généralement, recommandent de ne pas consommer avant 25 ans parce que, comme vous le disiez, il y a une maturation du cerveau qui se fait jusqu'à 25 ans. Et donc, on sait que consommer des substances, quelles qu'elles soient, il vaut mieux éviter de les consommer avant cet âge. Sauf que ce qu'on sait, c'est que c'est généralement avant 25 ans que les gens consomment. Et généralement, après 25 ans, souvent, ils arrêtent. Parce que ils se mettent en couple, ils ont des enfants. Voilà, les études le montrent. Hein, il y a des cycles de vie qui fait que quand on consomme, par exemple, pour faire la fête ou pour des raisons de sociabilité, on consomme généralement plutôt jeune. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que voilà, plus on retarde l'âge à la première consommation, plus on diminue les risques. Mais ça ne veut pas dire que chez des gens plus âgés, des adultes, il n'y a pas de risque du tout. Parce qu'il y a des personnes qui vont avoir des vulnérabilités particulières. Et des études ont montré que chez des personnes qui ont une vulnérabilité, par exemple, à le fait de développer un trouble schizophrénique, une consommation de cannabis peut, chez une partie d'entre eux, accélérer cette entrée. Ou vous avez des personnes, par exemple, qui consomment du cannabis à l'âge adulte, mais qui consomment de manière extrêmement fréquente et qui, dans ce cas-là, vont avoir des problèmes liés à leur consommation de cannabis. Mais c'est exactement la même chose pour l'alcool. Avec l'alcool, à l'âge adulte, vous consommez un verre de temps en temps, ou si vous consommez 10 verres par jour, c'est pas du tout la même chose. Mmh. Et ça aura aussi un impact sur votre investissement dans le travail, sur votre santé, ça peut donner lieu à des problèmes de cirrhose, une consommation excessive d'alcool. Ça donne lieu aussi à des problèmes de violence, des problèmes d'accident de la route, etc. Donc en fait, oui, légaliser ne veut pas dire que le cannabis ne comporte pas de risque. Et donc en fait, ce qui se passe par exemple dans un pays comme le Québec, qui a légalisé en 2019, à l'intérieur du Canada, qui a légalisé également de manière générale dans l'ensemble des provinces, eux, ils ont mis en place une légalisation que pour les plus de 21 ans, justement par rapport à cette histoire, être le plus près possible des 25 ans. Et ce qui est très intéressant, c'est que suite à la légalisation, les Québécois ont vu qu'il y avait une diminution de la consommation du cannabis chez les plus jeunes, chez les moins de 17 ans. Qui sont vraiment là les publics les plus à risque, hein, c'est ce que je disais à l'instant. Et donc pourquoi, on peut se dire, tiens, c'est bizarre, on légalise le cannabis, on rend son accès plus facile, on va penser qu'il y a moins de risques. Eh bien, c'est le contraire qui est arrivé, parce que les Québécois, en fait, ils ont décidé que tout l'argent lié à la vente du cannabis, ils le réinvestissent dans la prévention. Et la prise en charge. Donc, ils ont fait d'énormes moyens maintenant pour faire de la recherche, pour faire de la prévention, pour prendre les gens en charge. Et donc, en fait, depuis la légalisation du cannabis, avec tout cet argent qui a été investi dans la prévention, ils ont fait augmenter la prise de conscience chez les jeunes et aussi en population adulte des risques liés à la consommation de cannabis. Et puis, ils ont développé aussi tout un tas de programmes sur le développement des compétences psychosociales, parce que vous avez, alors ça c'est surtout chez les jeunes, mais des jeunes qui vont consommer, pas spécialement parce qu'ils ont envie de consommer du cannabis ou parce qu'ils aiment les effets, mais parce qu'ils ont envie de ressembler aux autres. Et donc parce qu'ils n'arrivent pas à dire non. Et donc le développement des compétences psychosociales, c'est par exemple savoir dire non quand on n'a pas envie de consommer. C'est pareil pour l'alcool, c'est pareil pour la sexualité, c'est pareil pour tout un tas de comportements. Donc en fait, tous ces programmes sur le développement des compétences psychosociales qui ont pu se développer aussi grâce à cet argent réinvesti dans la prévention, ça a eu un effet préventif très intéressant et important chez les jeunes. Voilà pourquoi légaliser ne va pas dire laisser faire.
Très bien, on a compris le message. Et on va repasser sur le cadre législatif maintenant, notamment sur le cadre de la France. On sait qu'en France, on a une des politiques les plus répressives d'Europe concernant le cannabis, avec la mise en place en 2020 d'une amende forfaitaire délictuelle de 200 euros en cas de possession de cannabis, notamment le discours du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui est particulièrement rude à l'égard des consommateurs et également des trafiquants de cannabis. Et donc, la légalisation en France ne semble pas du tout être à l'ordre du jour, alors même, comme vous le disiez tout à l'heure, que les Français et les Françaises sont parmi, voire les plus gros consommateurs et consommatrices de cannabis en Europe. Est-ce que le fait qu'un pays comme l'Allemagne, un pays aussi puissant, aussi pilier à l'échelle européenne, légalise du cannabis, est-ce que ça change la donne pour la France? Est-ce que la France pourrait, elle aussi, sauter le pas un jour prochain?
Alors, je n'ai pas de dons de voyance, donc je ne vais pas pouvoir vous répondre très précisément à cette question. La seule chose que je peux dire, c'est que, en fait, moi qui travaille depuis 30 ans sur cette question, je peux dire que jusqu'à 5-6 ans, on avait vraiment un clivage très important au niveau politique. Vous aviez la quasi-totalité des hommes politiques et des femmes politiques qui étaient opposés à la légalisation du cannabis. Et les seuls qui sortaient du lot, c'était vraiment les Verts, les écologistes, qui, eux, étaient favorables à la légalisation du cannabis. Et en fait, moi, j'aurais tendance à changer, à dater le changement, un changement qu'on observe aujourd'hui depuis à peu près 2019, depuis que le Québec a légalisé. En fait, depuis 5 ans à peu près, on a des hommes politiques du Parti Socialiste, de la France Insoumise, des Républicains, également du parti de la majorité présidentielle, qui désormais, en plus des Verts, demandent, il n'y a que le Rassemblement National qui ne s'est pas prononcé favorablement à ma connaissance, mais en tout cas, tous les partis, que ce soit de l'extrême gauche, de la gauche ou de la droite, de la droite républicaine, demandent, enfin, pas tous, mais en tout cas, certains hommes et femmes politiques de ces partis-là ont fait des coalitions où, à certains moments, ils ont proposé des rapports parlementaires pour demander une légalisation. Donc, on voit que depuis 2019, je dirais, on a... voilà, toute une frange politique est en train de bouger et qui met en évidence le modèle québécois. Là, il y a un rapport du Conseil économique et social qui est sorti l'année dernière et qui préconisait une légalisation du cannabis avec le modèle québécois en France. Et donc, je pense qu'une des raisons de ce changement, c'est qu'en fait, avant le Québec, on avait surtout l'exemple des États-Unis. Et les États-Unis, ils ont, alors même s'il y a des diversités, entre les, des différences entre les États, mais choisi un modèle très concurrentiel, très capitaliste, très peu centré sur la santé publique. Et c'est certainement pas un modèle qui est intéressant et qui serait à mettre en place en France. Mais le fait de voir les résultats du modèle québécois très intéressant sur la prévention chez les jeunes a joué un rôle. Et c'est vrai qu'on peut faire l'hypothèse qu'un pays aussi proche que la France, qu'est l'Allemagne, il y a la Suisse aussi, hein, qui a annoncé vouloir légaliser, pourrait potentiellement avoir un impact. Mais c'est vrai que pour le moment, on a quand même un discours très martial du ministre de l'Intérieur et on entend assez peu le ministre de la Santé, les ministres de la Santé sur ces questions.
Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Marie. Geoffrey Rousty, d'avoir été avec nous. On va manquer un peu de temps, donc on va s'arrêter là pour l'interview.
Merci.
Merci beaucoup.
Je vous remercie aussi d'avoir été avec nous ce soir. Malheureusement, c'est tout le temps que nous avons. On va boucler cette première partie d'émission sur Kill Somebody de Youngblood. Today, you made me feel irrelevant. Twisted my intelligence, made it seem there's no brain in my head. I'm like a skeleton, can't shut my eyes. Right now, I feel like I'm an alien. I'm so fucking dangerous. Cover up the evidence with medicine. I can't find the light. All I wanna do is kill somebody. Kill somebody, kill somebody like you. You, 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 you. All I wanna do is kill somebody. Kill somebody, kill somebody like you. You, 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 you. Today, you turn me like a corkscrew. Fight me like a lawsuit. Put words in my mouth that I don't want you to. And I lost my clout. My time is acting as my currency. You can't take that away from me. Cheat the young with no accountability. Shoot me down. All I wanna do is kill somebody. Kill somebody. Kill somebody like you. You, you. Kill somebody, kill somebody, kill somebody like you. You, 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 you. Right, right now I feel like an alien. Like I'm sitting in a state of perpetual frustration. Go on, shove me again, fuck with my head, leave me for dead, please. And yeah, you may think this is a metaphor. Something you've never heard before. I know I found on the floor and then subconsciously pinned to the door. But then you motherfuckers could cross them out and I still won't believe what you thought. All I wanna do is kill somebody. Kill somebody. Kill somebody like you. You, 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 you. All I wanna do is kill somebody. Kill somebody. Kill somebody like you. You, 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 you. All I wanna do is kill somebody. Kill somebody. Kill somebody like you. You, 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 you. Oh. C'était Kill Somebody de Youngblood.
La matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
Rebonjour, rebonsoir à la matinale, il est 19h34. Clément, tu nous parles d'un festival son et lumière.
Salut, cher auditeur. Tu entends ça? Ça, c'est une place pour le JTSE. C'est ma tante qui me l'a donné. Allez, viens, je t'y emmène.
Je m'appelle Jean-François Dinogier.
Mon nom, c'est Nicolas Franceschi.
Je m'appelle Maxime.
Solal.
Bon, c'est bien gentil, mais vous allez me demander, c'est quoi le JTSE? Eh bien, c'est le salon de l'éclairage, de la sonorisation et de la vidéo pour les arts du spectacle. Il est dédié aux professionnels du milieu, avec plein d'endroits pour essayer le matériel. Les grandes marques de son et lumière sont là, et c'est chez eux qu'on va aller. Je leur ai demandé de nous présenter leurs nouveaux produits. Ne vous inquiétez pas, je traduirai leurs paroles pour les plus novices d'entre vous. Alors, c'est quoi leur nouveauté ?
Nous sommes sur le stand de Sennheiser, Neumann et Mirjing. Alors aujourd'hui, nous pouvons parler présentement du EWDX et du EWDXP. Ce sont des technologies de microphones sans fil avec des doubles convertisseurs qui permettent d'avoir un rapport signal-bruit et jusqu'à 135 dB, ce qui est très intéressant en termes de qualité. Nous avons une autre partie chez Neumann Emerging avec la MT48 qui nous permet d'avoir ces mêmes convertisseurs-là, ce même principe-là, et qui nous permet d'avoir une qualité audio exceptionnelle.
Chez Sennheiser, on y trouve donc des nouveaux micros sans fil. Ils facilitent le réglage du volume pour les ingé-sons. Quant à cette MT48, c'est une interface audio entre l'ordinateur et un système d'écoute, d'une qualité exceptionnelle. Pour continuer avec du son, on va aller chez Yamaha. Certains d'entre vous les connaissent pour leur moto, mais ils ne font pas que ça.
Les nouveautés que nous présente aujourd'hui, donc division professionnelle, vous avez les nouvelles consoles DM, donc le petit modèle DM3. Qui est l'entrée de gamme chez nous, le couteau suisse, et la nouvelle présentation de la DM7 compacte et DM7 basique. Et vous avez aussi des produits un peu plus grand public qu'on présente aussi, les nouvelles HS de l'autre côté, c'est les HS3 et 4, hein, pour les gens qui font de la MAO, des choses et qui n'ont pas besoin d'avoir une grande pièce ou autre et une grande superficie, donc des petits monitoring exprès pour ça.
Les DM3 et 7 dont il parle sont des consoles de mixage. La DM3 est très simple d'utilisation. Elle se prête parfaitement à des home studios ou à des petites installations. Avec ces nouveautés, Yamaha s'ouvre encore plus au grand public. Allez, on laisse le son de côté pour l'instant et allons voir Stairway du côté de la lumière.
Dans les nouveaux produits qu'on présente ici au salon des JTSE, alors on a des lyres asservies type Beam, Wash et Spot. Et dans les toutes dernières arrivées, nous avons le Enzo et également le Baraka 360, donc la source laser, dont la particularité est d'être en pan et tilt à l'infini, ce qui permet d'avoir un visuel hyper intéressant. Et dans la salle de démo, donc au Doc Eiffel, je crois. Et sur cet emplacement, nous avons pu introduire en exclusivité donc, des gammes de produits IP65, puisque c'est quelque chose qui nous a été demandé. Ensuite, on a également deux soft panels qui peuvent être utilisés notamment dans des studios, un en version blanche et un autre en version couleur.
Vous auriez dû voir cet espace dont elle parle, c'était magnifique. Bref, en me baladant dans les allées, je suis tombé sur une jeune entreprise française, spécialisée dans les enceintes solaires.
Donc ça s'appelle Pikip, on est basé à Marseille, ça fait 6 ans que ça existe. On est une entreprise qui fabrique des systèmes sons qui fonctionnent à l'énergie solaire. L'idée c'est d'avoir des systèmes sons jusqu'à 2000 personnes qui fonctionnent avec beaucoup de rendement parce que du coup ça implique moins de puissance, donc des batteries plus petites et des panneaux solaires plus petits. Donc ça fait des systèmes qui sont relativement compacts, qui consomment très peu, qui sont rechargeables soit sur secteur, soit à énergie solaire selon les conditions. On offre plusieurs types de systèmes, il y a des systèmes mono pour DJ, très faciles à régler où il y a juste... on rentre deux câbles et c'est installé en 2 minutes. Des systèmes un peu plus classiques, mais toujours avec beaucoup de rendement pour les concerts. Et on a des systèmes juste d'énergie, c'est-à-dire qu'on peut brancher n'importe quel appareil électrique sur nos systèmes d'énergie, notamment pour dans un festival, il y a la partie acoustique qu'on gère, mais il y a la lumière, les tireuses à bière, les frigos qu'on peut aussi brancher sur nos systèmes. Donc avec ça, on peut faire un festival complètement autonome et on fait danser 1000 personnes à fond dedans. À Marseille, les gens sont chauds et on fait des soirées tout l'été là-bas et vraiment, et ça marche très très bien.
En plus d'être super sympa, les ingénieurs présents sur place ont pour objectif de rendre les festivals moins coûteux pour l'environnement. Un sujet qui me tient à cœur, comme toi j'en suis sûr. Je n'ai pas pu interviewer tout le monde au JTSE. Mais en tout cas, on trouve aussi des fabricants de sièges pour les salles de spectacle, du matériel pour les rideaux de scène ou les décors, et plein d'autres entreprises qui permettent aux artistes de s'exprimer dans de bonnes conditions et avec le moins de contraintes techniques possibles. Allez, je vous laisse sur les mots des représentants que j'ai interviewés, et je vous dis à la prochaine.
Bah, l'intérêt du JTSE, c'est de rencontrer des clients finaux, de rencontrer nos revendeurs, de revoir des ingénieurs du son. On fait évidemment des salons internationaux, que ce soit en Hollande, que ce soit en Espagne, pour d'autres aux États-Unis ou en Angleterre, mais là, pour un territoire français, retrouver en fin de compte nos acteurs, nos partenaires et nos utilisateurs, c'est aussi avoir leurs réponses, leurs questions et de pouvoir répondre à leurs besoins en fin de compte. Et puis partager du bon temps, revoir les amis, c'est bien important.
Merci Clément pour ce reportage et tout de suite le Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
En studio avec nous, Xavier Lemaître pour nous parler de la 41e édition du festival Banlieue Bleue reçu par José Louis. Est-ce que vous êtes là ?
Oui, je suis là.
Coucou tout le monde.
Bonsoir, bonsoir chers auditeurs, Tris. Bienvenue dans l'univers vibrant et métissé de Banlieue Bleue. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la 41e édition du festival. Le jazz va résonner dans les rues de la Seine-Saint-Denis et nous sommes ravis de vous embarquer dans ce voyage musical. Au cœur de Banlieue Bleue, la scène émergente est mise en lumière. Ces jeunes artistes porteurs d'une créativité bouillonnante sont les étoiles montantes du jazz, du hip-hop et des musiques du monde. Leurs notes audacieuses vont résonner dans les quartiers, tissant des liens entre les générations et les cultures. Au fil de ces 13 villes, du 8 mars au 5 avril 2024, la Seine-Saint-Denis nous invite à explorer des sonorités inédites, des rythmes envoûtants et des rencontres artistiques uniques. Xavier, merci d'être avec nous ce soir. Comment décririez-vous l'âme de Banlieue Bleue en quelques mots ?
Oh, en quelques mots, c'est le plaisir de la découverte beaucoup, surtout aujourd'hui, parce que Banlieue Bleue s'est construit d'abord avec des grands noms. Au tout début du festival, il y a les plus grands noms de la musique qui sont passés, Nina Simone, Chuck Berry, B.B. King, Miles Davis, etc., etc. Mais une fois que le festival a été connu, le but, c'était surtout de montrer les nouveaux créateurs de la musique d'aujourd'hui. Et c'est ce qu'on continue à faire à chaque édition. Donc voilà, j'ai plus que deux mots. Mais en fait, moi je trouve que c'est la musique en live et la musique qui n'est pas formatée. Enfin, et les musiques, en fait, puisque c'est très éclectique. Et puis, la découverte. Et le public a vraiment un plaisir de découvrir des artistes parce qu'on a, en gros, 50% des musiciens qui viennent pour la première fois qui sont inédits en France, quoi.
Quelle surprise nous réserve cette édition 2024 ?
Ben, y en a pour tous les goûts. On va ouvrir le 8 mars. En plus, on ouvre, c'est ce qu'on voulait faire à la 40e édition, mais on n'a pas pu parce qu'il y a eu, on était en pleine mobilisation pour les retraites. Et donc, on ouvre à l'université Paris 8 à Saint-Denis. Donc, on ouvre dans les murs de l'université parce que la musique, elle doit être là aussi. Donc, on n'avait pas pu le faire il y a un an à cause de ces manifestations. Mais on revient et on va donc ouvrir là ce soir-là avec en plus c'est le 8 mars, c'est la journée internationale pour le droit des femmes. Il y a 6 plateaux féminins et quasiment 6 découvertes. Alors bon, il y a presque plus de place maintenant. L'entrée est gratuite, mais il faut réserver quand même parce que les salles sont limitées. Mais on va découvrir Sophie Solivo, qui est une jeune chanteuse et harpiste extraordinaire, qui est très entre jazz et new soul, beaucoup. Cléo Reed, notamment, qui est une New-Yorkaise, qui, elle, a un peu digéré toutes les musiques de New York, de la grosse pomme, d'où elle vient, et qui fait aussi des choses très théâtrales, etc. Bon, ça, c'est juste l'ouverture, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup de propositions. Et je dirais, la ligne artistique est vraiment esthétiquement très ouverte. Donc, il y a le jazz un peu zarbi d'aujourd'hui, le jazz très créatif et très qui mélange déjà beaucoup de choses, mais pas que. Entre une... Il y a une jeune musicienne palestinienne qui vient... au milieu du festival, en gros, Mayal El-Khaldi, qui est partie des musiques ancestrales palestiniennes, mais qui en fait quelque chose avec une DJ très étonnante. Et tout ça, on va découvrir. C'est la première fois qu'elle est en France, qu'elle vient en France, par exemple.
Alors justement, à l'occasion de l'ouverture du festival à l'Université Paris 8 samedi, Saint-Denis ce 8 mars, qui est aussi la journée de la femme, vous l'avez noté, vous allez organiser une table ronde qui accueillera 4 invités qui échangeront sur le sexisme et les inégalités de genre dans la musique. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur cette rencontre ?
L'idée, c'est la journée de la femme, donc c'est bien aussi de faire une table ronde là-dessus. Et le sujet des inégalités de genre et du sexisme aussi commence à sortir dans la musique aussi un petit peu. On a 2 musiciennes qui jouent au festival cette année, qui sont 2 musiciennes américaines qui ont fondé il y a quelques mois un collectif, elles sont 14 musiciennes en tout, qui s'appelle We Have Voice, qui aussi, elle aussi se mobilise contre le sexisme. Donc là, on parle des États-Unis et c'est le milieu du jazz et des musiques improvisées. Il y en a fait partout. Donc nous, on a aussi saisi l'occasion. En plus, il y a des étudiantes et des profs qui font des recherches là-dessus. Donc on s'est dit, on commence le festival par une table ronde là-dessus. Ça va durer 1h30, mais il y a au moins des choses à dire, même si c'est un large sujet, quoi. Mais voilà, on commence le festival par ça.
Pour revenir aux artistes, comment choisissez-vous les artistes de la programmation? Quels critères privilégiez-vous?
Ben, le premier critère, c'est la valeur artistique. Donc, c'est très subjectif. Mais il y a évidemment il y a des choses très bateaux, comme parce que chacun a sa façon d'apprécier la valeur artistique, mais nous on va dire qu'il y a à la fois on est quand même un festival de niveau international, c'est-à-dire l'ambition c'est de montrer vraiment des voix aujourd'hui qui sont amenées à être importantes, même si elles sont pas forcément encore connues, en tout cas pas forcément connues du grand public ou même du public français, puisqu'il y en a beaucoup qui viennent pour la première fois. Mais voilà, ce critère de la valeur artistique, il est aussi des fois dans on s'intéresse beaucoup aux musiciennes et aux musiciens qui inventent des nouvelles formes. Et donc, voilà, ça peut être, là, dans le programme, il y en a pas mal qui ont vraiment inventé leur propre mélange, leur propre façon. Des fois, c'est de reprendre une vieille forme et la transformer. Des fois, c'est vraiment créer un nouveau mélange. Donc, je sais pas, il y a Gaïka, par exemple, qui est un des rappeurs connus maintenant dans le drill, le britannique, qui a inventé des choses. Il fait une espèce de dancehall un peu gothique, techno, etc. C'est un peu le seul à avoir créé ce mélange. Donc c'est intéressant pour nous justement de montrer ça, de montrer cette infinie créativité dans les musiques aujourd'hui. Et oui, en effet, le jazz, il y en a. Bon, le bleu, ça tourne toujours tourner autour du jazz, mais c'est aussi un peu un moyen d'aborder de biais avec le jazz le monde des musiques d'aujourd'hui.
Justement, pour les jeunes artistes qui souhaiteraient se produire sur les scènes de banlieue bleue, quels conseils vous leur donneriez?
De jouer leur musique, en gros, vraiment de rester eux-mêmes et en effet d'essayer d'aller au bout des idées ou des envies qu'ils ont. Après, pour jouer dans un festival, c'est toujours un concours de circonstances. Hein, mais je crois qu'aujourd'hui, surtout, il y a une partie de la musique qui est en train de se formater, mais dans l'industrie. Mais en revanche, dans la créativité, elle est de plus en plus sans limite, puisqu'on peut fabriquer de partout dans le monde aujourd'hui, on peut fabriquer sa musique. On n'a plus besoin des intermédiaires, des labels, même des festivals à un moment. Donc il y a une grande richesse, une grande diversité, c'est très vivant, quoi, en fait.
Justement, comment le festival s'adapte à ces évolutions musicales et aux nouvelles tendances artistiques?
On essaye en tout cas d'écouter un maximum de choses, de repérer, d'aller rester très ouvert. Ça a été un peu depuis le début, parce que Banlieue Bleue était un festival de jazz, mais il y avait déjà beaucoup d'autres musiques. Il y avait du rap, il y avait du rail, il y avait des musiques du monde entier, mais pas forcément l'appellation musique du monde. Des musiques aussi qui sont en phase avec leur temps quand même, quoi, qui ne sont pas sous une cloche à fromage, quoi.
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu des coulisses? Quels sont les défis logistiques pour organiser ce type d'événement de telle envergure?
Comme c'est un événement qui s'étend sur 13 villes, alors c'est 13 villes en Seine-Saint-Denis, on s'en est pas au fin fond de la campagne non plus. Toutes les salles de concert sont accessibles, hein, en transport en commun quasiment. Mais le défi logistique, c'est en effet pour l'équipe technique, c'est de démonter tous les soirs et de remonter le lendemain dans une autre salle. Et voilà. Donc, mais ça fait très longtemps que Banlieue Bleue fait ça, donc.
Ok, le jazz a ce pouvoir de toucher les âmes. Pour vous, quel est votre plus beau souvenir en tant que directeur de ce festival?
Non, mais ça, c'est impossible de répondre à une question comme ça, parce que évidemment, il y a beaucoup de très beaux souvenirs, mais ils changent tous les jours, parce qu'en effet, il y en a beaucoup. Après, moi, c'est pas tellement les souvenirs, moi, qui m'intéressent. C'est là, moi, j'attends avec grande impatience les concerts qui vont commencer vendredi et qui vont durer pendant un mois. Parce que je sais qu'ensuite, j'aurai sûrement pas mal de beaux souvenirs. Et l'an dernier, j'en ai eu beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire, c'est... des fois, on se dit, ah, il y a un souvenir, juste un concert, un moment, etc. Et dans ce festival, moi, en plus, comme il y a un concert tous les jours, nous, dans l'équipe, on voit tous les concerts. Et moi, je ressors à chaque fois du festival avec beaucoup de bons souvenirs.
Peut-être ajouter que le festival n'est pas retransmis sur les ondes ou sur les réseaux. Donc, c'est un moment éphémère à vivre en vrai.
Et sur place, oui.
Et sur place. Merci, Xavier. Chers auditeurs, Tris, réservez vos places, suivez les notes et laissez-vous emporter par la magie de Banlieue Bleue.
Et je vous remercie aussi, Xavier, d'avoir été présent avec nous ce soir.
Merci
José-Louis. Et on se met pour terminer cette partie de l'émission, Subek et Subek d'Estrellas del Caribe. Bien. C'était Subek et Subek d'Estrellas del Caribe sur le 93.9.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Akira Koukou, le fleur est à toi. Du coup, c'est quoi cette grosse info du moment ?
Bonsoir à tous. Comme tous autour de la table, j'adore l'actu. J'ai toujours Le Monde, Mediapart et Picsou Magazine en intraveineuse. Donc je vais vous parler d'une nouvelle qui a retenu mon attention. Aujourd'hui, on est le 5 mars et hier, il s'est passé un truc historique. Une grosse actu dont tous les médias parlent. Hugo Décrypte a même fait une vidéo dessus et pas un simple post. Je parle évidemment de l'expo Willy Wonka catastrophique en Angleterre, bien sûr. Et oui, cette semaine, des familles entières se sont retrouvées dans un hangar quasi vide avec des châteaux gonflables dégonflés et des posters à peine décrochés. Pas de chansons, aucun chocolat, même les Oompa Loompa en train de Doompa Loomper là, ils étaient gênés de participer. Vous imaginez le scandale ? Des après-midi entiers de gâchés, des enfants qui vont devoir rentrer tristes et en apnée parce qu'ils n'aiment pas l'odeur de la voiture. Mais ne vous inquiétez pas, les familles vont être remboursées. Voilà. À part ce drame, il ne se passe pas grand-chose en ce moment. La guerre en Ukraine, le génocide en Palestine, un sentiment d'impuissance grandissant par rapport à l'état du monde et notre vaine tentative de le combattre à grands coups de story Instagram. Bref, la routine quoi. Ah si, il y a quand même un grand truc important, c'est que maintenant, l'avortement fait partie de la Constitution. Alors, je suis un garçon engagé et j'ai pas peur des répercussions. Donc voilà, je vais le dire. Perso, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Alors oui, effectivement, c'est une opinion qui divise, j'en ai bien conscience. Il n'y avait que 86% des parlementaires qui étaient d'accord avec moi sur ce coup. Donc ouais, je sais, je dérange les puissants. Alors évidemment, ça va être récupéré par le gouvernement en mode « Vous avez vu l'exploit que c'est ? Vous avez vu comment on est progressiste ? On fait plein de trucs en féminisme, on fait... bah c'est quand même la cause du quinquennat, donc Gérald Darmanin, non. Bon bah, c'est déjà pas mal. Après, c'est pas parce que c'est dans la Constitution que c'est vraiment mis en pratique. Je vais citer l'article 1 de notre Constitution. « La République française respecte toutes les croyances. » Toutes les croyances, vraiment. Il n'y en a pas une qui se fait un peu harceler toute la journée. Bon, ok. Son organisation est décentralisée. Alors, je ne veux pas casser l'ambiance, mais son organisation se passe vachement à Paris, non ? Ah non, pardon. C'est vrai que je suis mauvaise langue. C'est pas dans les mêmes arrondissements. Le 7 et le 8, il y a au moins 200 mètres entre les deux, quoi. En tout cas, l'IVG inscrit dans la Constitution, c'est une bonne nouvelle. Certaines personnes diront que c'est bien, mais que c'est pas assez. D'autres diront que c'est plus qu'assez et que c'est déjà bien. Mais pour une fois, profitons un peu de cette nouvelle, parce que être fier d'être français, c'est pas que pour les Coupes du Monde.
Bah merci, merci Akira. C'est déjà malheureusement la fin de la matinale. On pleure, vous pleurez chez vous, je le sais. On se quitte dans la joie et la bonne humeur, car le soleil revient petit à petit et que demain c'est mercredi. Et mercredi c'est spaghetti. Merci à nos invités, Marie-Geoffrey Rouchetid, Xavier, le maître. Merci aux bénévoles avec nous ce soir, Anouk P, à Clément, José-Louis, Akira et Jeanne Auréal, Héloïse et Lucas. Merci pour vous à la coordination. Tout de suite, le lobby sur Radio Campus Paris. See you later.